La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC.
Here is the commissioner of the NBA, Adam Silver.
With the first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Basket time.
C'est que la draft, c'est qu'un début, c'est pas du tout un aboutissement.
The number one pick in the 2024 NBA draft goes to the Atlanta Hawks.
Kylian Vérov.
Salut tout le monde, nouvel épisode de Basket Time. Aujourd'hui, on continue de vous présenter quelques-unes des pépites qui se présentent à la prochaine draft NBA. Et pour en parler avec moi, vous en avez l'habitude désormais, nos compères du média Envergure, spécialisés dans l'analyse et le décryptage des prospects. Avec moi aujourd'hui, Emmanuel Lenevé. Salut Manu.
Salut Kylian.
Alors on le rappelle, plusieurs épisodes sont déjà disponibles. Manu, on a déjà parlé des cas de Zachary Risacher et d'Alexandre Sarr, évidemment nos deux principaux Frenchies. Dans le dernier épisode, on s'est attardé sur Nikola Topić, un des plus gros talents purs de cette QV. Je vous invite évidemment à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais aujourd'hui, on vous emmène en Lituanie, ou presque.
Puzelis throws it down. Modest Puzelis at 6'10" has so many moves. Another block by Puzelis, his second tonight. Puzelis with two hands.
That's the way the young fella comes back.
Get down out of here. Puzelis with the block. What a monster jam. Modest Puzelis. Let him know. Puzelis out ahead. It's showtime.
Matas Budzelis, si ses deux parents ont joué au basket professionnellement en Lituanie, ils ont fini par émigrer aux États-Unis. Et c'est là qu'il est né, plus précisément à Chicago en 2004. On est donc là sur un jeune joueur lituano-américain ou américano-lituanien, c'est selon. Manu, est-ce que tu peux me décrire déjà pour commencer le profil de Matas Budzelis?
Alors Matas a un poste 3 voire 4 selon les séquences de jeu dans lesquelles il a incorporé. Annoncé à 2m08, 94 kg avec une envergure égale à sa taille 2m08. Et physiquement, on est sur un joueur assez fin, mais quand même assez musclé, donc très intéressant physiquement.
Alors tu l'as dit, on a l'impression quand même d'un joueur très long, très fin sur le terrain. Et pourtant, cette envergure égale à sa taille, ça peut paraître quand même comme un défaut en NBA. C'est quand même assez rare, cette statistique-là au niveau de son envergure. Est-ce que ça peut lui être préjudiciable, notamment pour un ailier qui présente surtout des envergures positives en NBA, selon toi?
C'est assez rare, mais c'est pas non plus un point négatif, je pense. Ça peut gêner sur en défense, car il prendra un peu moins de place dans l'espace. Mais ça peut aussi être un avantage, notamment au tir. Les meilleurs shooters n'ont pas forcément une envergure très importante par rapport à leur taille. Donc un défaut peut-être, mais je dis pas forcément un gros point négatif pour la suite.
Ok, alors pour revenir dans la jeunesse de Matas Budzelis, à Chicago, il est né, je l'ai dit, il s'essaye d'abord à la gymnastique et à la natation avant de se mettre au basket. Est-ce que tu peux nous raconter son parcours basket avant le monde professionnel, Manu?
Bon, il a un parcours assez lambda pour un jeune américain. Il termine son cursus scolaire à la Sunrise Academy. C'est une prep school, une école où le basket est assez mis en avant, une place très importante. C'est ce que font beaucoup les gros prospects américains maintenant. Et comme ça se fait désormais avec les gros prospects US, ils font souvent ça. La plus connue, c'est Monteverde Academy, par exemple. Puis après, ils décident d'aller en G-League. Ils zappent le côté universitaire habituel, le chemin habituel menant à l'université, pour aller directement dans le monde professionnel et incorporer l'Ignite.
Bon, avant ça, il a quand même été sélectionné pour le Nike Hoop Summit, le McDonald's All-American et le Basketball Wizard Borders Camp, où il est sorti MVP d'ailleurs. On l'a, après ça, logiquement qualifié de recrue 5 étoiles. Tu l'as dit, il s'est engagé en G-League. Est-ce que tu peux nous donner ses stats cette saison avec cette équipe G-League?
Alors avec l'Ignite, il cumule 14 points, 7 rebonds, 2 passes, 2 contre, 2 moyennes en 26 matchs joués. Et dans les pourcentages au tir, il affiche 44% de réussite totale sur la saison, dont 27% à 3 points sur 3 tentatives par match. un peu moins de 70% au lancer franc.
Alors on y reviendra sur ces pourcentages qui sont intéressants à analyser pour le profil de Matas Boudzelis. Mais avant ça, quand même, sur le papier, ces statistiques, elles paraissent intéressantes. 15 points, 7 rebonds, tu l'as dit à peu près. Pour autant, dans le jeu, on a une impression un peu différente quand on regarde Matas Boudzelis. Est-ce que c'est aussi la faute du niveau de lignite affiché cette année ?
Ça peut, ça joue forcément, car les joueurs autour de lui sont aussi là pour se montrer finalement, donc c'est assez compliqué. Cette année, il a été accompagné de plusieurs autres prospects comme Ron Holland, l'américain, Izan Almanza, Landon Johnson, Tyler Smith. Tous les 4 voire 5 avec Matas sont attendus à la draft cette année. Ça fait beaucoup de jeunes à montrer, et à côté de ça, ils incorporent quelques vétérans, sauf que ces vétérans-là, ils sont aussi là pour se montrer à minima et gratter ce dernier contrat NBA. C'est pas exceptionnel comme contexte, finalement, du fait de trop de joueurs à montrer, et du coup, ça s'embouchonne, il n'y a qu'un ballon, donc c'est compliqué d'exister, et cette année, ils ont une des pires saisons, ils doivent avoir même pas 5 victoires au compteur.
Ouais, c'est pas mal en effet. Ouais, on pourrait croire que quand il y a plusieurs talents, plusieurs joueurs qui essayent de se montrer, ça pourrait les tirer vers le haut, une sorte de compétition interne dans une équipe. Mais toi, tu penses que ça les dessert plus qu'autre chose au final?
Ouais, parce que surtout, y avait Ron Holland qui, voilà, il se tirait un peu la bourre, entre guillemets. Ils ont eu la chance de se blesser pas au même moment. Donc Matas Boudzelis a raté le premier quart de la saison, et Ron Holland a gagné à manquer dernière moitié de saison. Donc finalement, ils ont pu se montrer chacun à un moment de la saison. Mais c'est compliqué parce qu'il faut incorporer les autres. Ce que je disais, Almanza, Landon Johnson, Tyler Smith, qui a pris de plus en plus de place au fil de la saison, et les vétérans qui gobent pas mal de ballons. Ils n'ont pas eu ce rôle de mentor qu'ils doivent avoir normalement dans ce genre d'équipe, et ce qui était programmé pour avoir ce rôle-là, pour les aider et montrer que ce programme est efficient.
Bon, on va revenir sur Matas Boudzelis. De toute façon, la J-League Ignite, elle va tendre à disparaître. Boudzelis fera partie avec ses concurrents directs dont tu as parlé, des derniers prospects à être passés par là. Matas Boudzelis, un mot sur son style de jeu, Manu. Comment est-ce que tu le décrirais ?
C'est un ailier qui aime attaquer le panier avec ou sans ballon. Il a la capacité de faire les deux, donc c'est très intéressant. Et qui peut également étirer les défenses par son tir à 3 points, malgré sa statistique de 27%. C'est un point qui va s'améliorer dans les années à venir.
Quels sont ses véritables points forts selon toi ? C'est son jeu sans ballon, justement ? C'est ça ce qui fait sa force ?
Pour moi, c'est plus ce côté attaquant vers le cercle. C'est assez rare pour un grand joueur comme ça à 2,08 avec le ballon. Malgré un premier pas aussi assez faible, il arrive à faire les différences pour aller au panier et terminer aussi bien main gauche que main droite. Donc c'est super intéressant de voir ça. Et sans ballon, il a su profiter des largesses défensives en G-League pour couper et marquer. Donc voilà, deux phases de jeu différentes qui lui permettent d'attaquer et marquer. Donc c'est super, super intéressant de voir un joueur comme ça, assez grand. On n'a pas l'habitude de voir des joueurs comme ça avoir ce style. Et on peut aussi mentionner sa capacité à contrer. Comme mentionné au début, il a 2 comptes de moyenne par match. C'est un élément qu'on observait aussi déjà en high school. Donc c'est super intéressant de le voir apporter des deux côtés du terrain.
On le sent très efficace en défense, et puis tu l'as dit aussi, 7 rebonds, dont 2 offensifs, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que c'est aussi une de ses aptitudes fortes, le rebond, la défense, tout ce qui va apporter un petit peu dans l'ombre, pas forcément offensivement ?
Ouais, c'est sûr, c'est le rebond, c'est pas quelque chose auquel on pense, mais c'est super important d'avoir cette capacité à sauter au bon moment pour justement aller plus haut que l'adversaire, même s'il est plus grand. Des fois ça fait la différence, donc c'est super important le rebond. Et le côté un peu effacé, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais ça peut lui apporter effectivement, parce que les défenses vont peut-être pas se fixer sur lui au tout début, et en fait elles vont devoir s'adapter assez rapidement parce qu'on voit qu'il sait tout faire finalement.
Ah, notamment ne pas se fixer sur lui parce que aussi on voit dans les chiffres 27%, tu l'as dit, à 3 points, 46% au tir. On peut quand même se dire que c'est assez peu pour une année de pré-NBA, donc peut-être que les joueurs se focaliseront pas forcément sur lui. Est-ce que c'est un de ses principaux axes de progression selon toi, le pourcentage au tir, sa capacité à être un plus grand shooter que ça ?
C'est ça. Après, moi je tempère un peu les 27% parce qu'il est passé du high school à la ligne NBA, et il y a une différence assez énorme en termes de distance. Oui. Donc le 27%, c'est pas exceptionnel, mais je pose ça plus sur une adaptation assez difficile, et je pense que ça va venir assez rapidement. Il a toujours été un shooter assez impressionnant, donc je me fais pas de soucis là-dessus. La mécanique est assez bonne, donc je fais pas trop de soucis là-dessus. Et en termes de progression, je dirais aussi gagner en dureté. Pour moi, c'est l'une des premières choses qu'il va devoir travailler, parce que malgré des points forts énoncés sur l'attaque, il reste encore assez limité physiquement. Pour être bon dans la finition, il n'a pas encore cette capacité à tenir et dominer le contact en l'air pour marquer. Donc voilà, c'est deux choses sur lesquelles, personnellement, je trouve qu'il doit travailler pour devenir encore meilleur.
Bon, j'ai pu lire quelques analyses des principaux analystes, justement, NBA, notamment aux États-Unis, sur cette prochaine draft NBA par rapport à Matas Boutzelis. Certains parlent d'un jeu très stéréotypé. Est-ce que tu es d'accord avec ça en attaque ?
Ça peut, parce qu'il a eu un rôle assez limité, notamment parce que je t'ai dit au début, il faut incorporer tout le monde, donc c'est assez compliqué de trouver la bonne mayonnaise. Mais je vois ce qu'ils veulent dire, c'est un jeu qui a de la coupe, du tir extérieur. Après, il a quand même montré de belles choses, donc stéréotypé, je trouve que c'est un peu un mot assez dur.
Peut-être un peu scolaire plutôt ?
Ouais, plus ça, dans sa manière de bouger, d'effectuer les choses, c'est peut-être plus scolaire, ouais. Okay. Je trouve le terme un peu meilleur.
Allez, va pour scolaire. Alors, tu le comparais à quel joueur NBA, ce Matas Boutzelis ?
Physiquement, il me fait penser à du Mike Dunleavy ou Rashard Lewis, donc des scoreurs assez fins physiquement. Pour se rapprocher de la NBA actuelle, je trouve qu'il y a un peu dans le jeu de Jabari Smith, le joueur des Rockets, ou Mo Wagner du Magic, des joueurs comme ça un peu capables de tout faire, qui sont un peu bons partout, mais exceptionnels nulle part. C'est comme ça que je les définirais.
C'est pas mal. Un autre joueur NBA, Norris Cole, il a absolument rien à voir dans le profil avec Matas Boutzelis, rassurez-vous. Pour autant, il l'a pris sous son aile cette année, le double champion NBA. On l'a aussi vu passer évidemment par le championnat de France à l'ASVEL, à Monaco et à Bourg-en-Bresse. Voici ce que Matas Boutzelis a déclaré cette saison. Norris, c'est comme un grand frère pour moi. Il m'aide beaucoup, il me parle beaucoup sur et en dehors du terrain. Il a été aux premières loges en NBA et il me donne beaucoup de conseils. Par exemple, je fais 2m8, je peux scorer, mais je n'ai pas besoin de tirer de loin tout le temps. Il me répète d'attaquer le cercle. Défensivement, c'est des détails, des petites choses, des astuces qui aident beaucoup. Et vu qu'il est meneur de jeu, il m'aide aussi beaucoup dans ma lecture de la défense sur pick and roll. Manu, est-ce que c'est l'un des avantages de l'Ignite quand même de bénéficier de l'appui de joueurs expérimentés, comme c'est le cas avec Norris Cole pour Matas Boutzelis ?
Ouais, ça l'est. Comme je l'ai dit au tout début, c'était le but aussi de la chose, d'incorporer un peu ce mix neuf et vieux de vétérans qui, justement, que ce soit sur le terrain, mais aussi hors terrain, comme là il a l'air de l'expliquer, c'est vraiment hors terrain où il lui explique les choses, il l'aide à s'améliorer en fait sur des petits détails, quoi regarder, comment faire, voilà, comment agir, c'est super intéressant. Moi, j'ai pas tous les détails du hors terrain, moi ce que je vois c'est le terrain, et je vois que ces vétérans ont pas forcément eu ce côté escompté d'aider ces jeunes-là, parce qu'ils ont, il y a 4 ou 5 trentenaires, et comme je disais, c'est des joueurs qui espèrent encore gratter ce dernier contrat NBA, cette dernière chance de jouer en NBA. Donc des fois, ils tirent un peu la couverture sur eux, ils prennent des tirs qu'ils ne devraient pas forcément prendre. Donc c'était assez compliqué, moi je trouve, sur le terrain, de ce côté expérience-là. C'est ce qui est dommage.
Alors, un autre aspect de la personnalité de Matas Boutzelis, c'est qu'il n'a en apparence pas vraiment froid aux yeux. Il a déclaré dans un entretien avec Basket News son envie de défier Zachary Zaché lors d'un workout futur. Bien sûr, j'aimerais l'affronter en un contre un, mais lui, il n'a aucune envie de faire ça face à moi. Son agent ne le laissera pas le faire, je le sais, c'est une décision pour le business. J'ai l'avantage dans tous les domaines sur lui. Fin de citation. Est-ce qu'on peut comprendre là, Manu, qu'il n'apprécie pas vraiment d'être derrière le français dans tous les mock drafts, surtout qu'ils évoluent à peu près sur des postes similaires, avec pratiquement la même taille. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? Est-ce que c'est de l'ambition ? Est-ce que c'est de la nonchalance ? Comment tu analyses un petit peu cette déclaration de Matas Boutzelis ?
Ouais, c'est surtout irréaliste, mais je trouve qu'il se voit comme le joueur qu'il n'est pas encore, en fait, finalement. Il a cette mentalité très américaine où tous les ans, à ce moment-là de l'année, il y a 4 ou 5 joueurs qui se disent « c'est moi le meilleur joueur de cette draft, je serai le meilleur joueur de tous les temps, machin, machin ». Ils sont très là-dedans, et c'est un peu de la provocation, et il est aussi, lui, dans une décision de business. c'est pour faire parler de lui finalement. Ce qui a fonctionné parce que tout le monde a commencé à faire les comparaisons, que ce soit physique ou statistique. Donc finalement, il a gagné parce qu'on parle de lui.
Bon, on va se projeter un peu, Manu. Si on se fie à la mock draft d'ESPN notamment, il est attendu à la 6e place. Mais on a quand même l'impression cette année que sa cote, elle n'a pas vraiment cessé de décroître. On a l'impression quand même que sélectionner Boutzelis, ça reste quand même un vrai pari. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Tous les picks sont des paris parce qu'on connaît, on n'a pas l'avenir devant nous, on ne sait pas comment ce sera, comment ils répondront au contexte, comment ils répondront à l'adversité. Donc ce sont des choses très importantes. Il y a deux choses pour moi très importantes chez lui, ça va être la mentalité et la coachabilité du joueur.
Ouais.
Voilà, et le contexte dans lequel il va le terminer. Dans un top 6 actuel, excepté peut-être les Spurs ou Houston, les contextes qui se présentent à lui ne le conviennent pas tout à fait. Donc là-dessus, c'est assez compliqué de le projeter avec réussite, et surtout s'il a la mentalité qu'il affiche en faisant des déclarations comme ça.
Oui, c'est sûr. Bon, alors si on part du principe qu'il arrive à s'intégrer, que tout se passe bien, que sa mentalité est bonne, quelle place peut-il espérer en NBA selon toi? Est-ce que c'est celle d'un homme à tout faire? Tu l'as dit, un peu polyvalent, un peu homme de l'ombre qui arrive aussi à s'adapter en attaque?
Il y a ça, il y a beaucoup d'Américains, de médias US qui le projette comme ça. Moi, je pense qu'à terme, il y a un monde où c'est un ailier capable de sanctionner un peu partout sur le terrain. Un joueur qui brille aux côtés d'un très bon meneur. Mais aujourd'hui, c'est un homme un peu à tout faire. Un joueur bon dans plusieurs compartiments, mais qui n'excelle un peu nulle part. Donc, il y a des choses qu'il va devoir travailler, c'est sûr. Après, je pense qu'au début, il aura ce rôle un peu de role player, voilà, de mission. Voilà, tire, fais ci, fais ça, mais c'est un rôle qui va évoluer d'année en année, je pense. Il va prendre de la place de plus en plus, encore une fois, s'il termine dans un très bon contexte pour lui.
Évidemment, vous l'avez compris, on va boucler ce focus en sortant la boule de cristal, comme d'habitude. Dans quelle franchise faudrait-il qu'il atterrisse, Matas Boutzelis, pour s'épanouir, selon toi, Manu?
J'aime bien l'idée Portland en 7, où il pourra profiter des espaces laissés par Shaedon Sharp et Scoot Anderson, qui sont plus des slashers, des attaquants de cercle, pour sanctionner lui, du coup, de loin, et compter sur le jeu d'Anthony Simons pour scorer sur les coupes, justement, en panier, et terminer sur du alley-oop, par exemple, ou ce genre de choses. Sanctionner les largesses défensives, comme je parlais en début de podcast.
Allez, va pour Portland. Alors, c'est clair, net, précis et surtout complet. Merci Manu pour ce focus sur Matas Boutzelis. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Comme toujours, je vous mets toutes les infos du Média Envergure dans la description de cet épisode. Allez checker leur travail et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait. Salut.
RMC Basket Time.